Peut-être avez-vous écouté de façon distraite la première lecture des Actes des Apôtres, qui est une lecture très importante sur la manière de fonctionner de l'Église des premiers temps et encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, le premier concile, où la question était de comment faire le lien entre ceux qui s'étaient convertis au Christ alors qu'ils étaient païens et ceux qui étaient juifs convertis au Christ. Comment faire le lien entre ceux qui avaient reçu déjà l'ancienne alliance, la loi de Moïse, et ceux des païens qui ne l'avaient pas reçue. C'était évidemment source de tension. Et finalement, l'Esprit Saint et nous-mêmes disent, en tout cas les apôtres, quand ils envoient des hommes qui ont autorité sur les frères, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle de s'abstenir des viandes offertes en sacrifice, de prendre du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Entre autres, la question de la circoncision n'était pas obligatoire. C'était cette question-là qui est un marqueur encore aujourd'hui dans le judaïsme. Je trouve que c'est très intéressant de la manière de fonctionner de l'Église. C'est que quand il y a parfois des choix qui semblent un peu impossibles, comment réconcilier les contraires ? Comment réconcilier la personne qui vient du judaïsme et qui a reçu la loi de Moïse et réconcilier ceux qui sont attachés au Christ et qui sont des païens ? Vous avez dans l'histoire de l'Église des tas d'exemples comme ça. Ce qu'on a appelé les lapsis. Les lapsis, ce sont des personnes qui, face à la persécution des empereurs romains, ont abjuré leur foi, ont abandonné leur foi. Et lorsque les persécutions ont terminé, avec la conversion de l'empereur Constantin, eh bien, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire de ces frères et sœurs qui, sous la menace de la torture ou d'aller au lion, ont abandonné, abjuré leur foi. Certains disaient, non, il ne faut pas du tout les admettre, ils sont en dehors de la communion, ils sont excommuniés. D'autres disaient, si nous sommes des disciples de Jésus, qui est un Dieu de miséricorde, ils peuvent faire pénitence et peuvent être réintégrés dans l'Église. Et c'est cette deuxième solution qui a été choisie, et ce qui a donné lieu, par exemple, à des ordres de pénitents. Les premiers ordres de pénitence, c'était des personnes qui avaient abjuré leur foi, apostasié leur foi, renoncé à Jésus et qui demandaient d'être réintégrés dans la communion de l'Église. Et puis, vous avez d'autres exemples. Avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle, on s'est dit, mais tous ceux qui n'étaient pas romains, les barbares, ceux qui n'étaient pas romains, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on doit les admettre dans la communion de l'Église ? Est-ce qu'on doit leur donner le baptême ? Est-ce qu'on doit, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et il y en avait certains qui disaient non, s'ils n'étaient pas romains, ils n'ont pas tout le background que nous, disciples de Jésus, nous avons en ayant vécu sous l'Empire romain, entre autres la question de la loi, etc., le droit romain, etc., et on ne peut pas les admettre. Et d'autres disaient, mais oui, on peut les admettre à condition d'avoir une catéchèse, à condition, etc. Et c'est cette deuxième position qui a prévalu. Il faut savoir que la chute de l'Empire romain a été une catastrophe pour Saint Jérôme, donc on parle du 5e siècle là. Hein, pour Saint Jérôme, c'était la fin du monde, alors que c'était juste la fin d'un monde. Vous avez un autre exemple. L'exemple de saint Thomas d'Aquin qui a reçu les écrits des philosophes grecs, singulièrement d'Aristote, par les penseurs arabes, par Avicenne et Averroès, qui ont transmis ces écrits qui viennent d'un païen, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Et quand Thomas d'Aquin a voulu inclure dans la foi de l'Église des catégories philosophiques, on lui a dit attention, là tu es en train de paganiser l'Église. Alors qu'aujourd'hui, à plusieurs siècles de distance, ça fait rire, parce que les plus traditionnels dans l'Église font volontiers allusion à Aristote et à Thomas d'Aquin. Mais il y a eu aussi des loupés. Il y a eu des loupés, je pense par exemple à la réaction de l'Église face aux Albigeois, donc on est au XIIIe siècle, où là, avec le siège de Béziers, où la croisade contre les Albigeois, donc les Cathares, hein, qui était une forme d'hérésie, et là, au contraire, voilà, ça a été la violence qui a été mise, on a sommé les Cathares de se convertir, certains étaient prêts, mais avec des conditions, mais là, il y a une sorte de raidissement, et le légat du pape a dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », puisque dans le siège de Béziers, les catholiques défendaient les cathares, avaient abrité les cathares, disaient « Nous, on est là, et pensant être une protection pour qu'ils ne soient pas tués ». Et puis non, finalement, Dieu reconnaîtra les siens. Bon, là, c'est clairement un loupé. Vous avez évidemment les guerres de religion, qui sont des loupés, où là, il y a eu des raidissements. Alors que l'édit de Nantes a été vraiment, au contraire, une manière de dire, mais comment vivre ensemble avec des religions qui étaient désormais différentes. Puis ensuite, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, c'était une catastrophe. Vous voyez, donc, tous les protestants ont dit, soit la conversion, soit l'exil. Vous voyez, et puis, je pense peut-être plus récemment, avec le Concile Vatican II, qui a voulu être en dialogue avec le monde. Alors, ça n'a pas été simple, et c'est encore en application, et on sent que ça crée quelques tensions. Ou, de façon plus récente, un certain nombre de chrétiens ont fait appel aux sciences humaines, en disant, mais est-ce que notre foi ne pourrait pas aussi s'emparer d'un certain nombre de techniques psychologiques pour pouvoir aider les disciples de Jésus à mieux le suivre et à travailler sur eux-mêmes? Alors certains disaient, non, 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 là on est en train de dévier, on va laïciser le christianisme. Puis finalement, aujourd'hui, les séminaristes, pratiquement tous, passent une sorte de test psychologique pour voir si, au moins au plan humain, ils sont assez équilibrés. Je trouve que je fais toute cette histoire pour vous dire que dans la manière de fonctionner de l'Église, il y a eu comme ça des tensions, il y a eu des loupés, mais que la manière de fonctionner de l'Église, ça a été d'assimiler, d'assumer ce qui n'était pas sien. Et c'est la force de l'Évangile. La force de l'Évangile, c'est précisément de prendre ce qui n'est pas nôtre, comme par exemple Aristote, comme par exemple les païens, comme par exemple les barbares, les païens au temps des apôtres, etc. Ce qui n'est pas nôtre, mais de le faire nôtre, de l'assumer. Et assumer, évidemment, vous entendez Assomption, et l'Assomption de la Vierge Marie est précisément le fait d'assumer en Marie toute notre humanité. Et nous pouvons dire volontiers tout ce qui est humain est nôtre. De même aussi qu'on peut dire tout ce qui est divin est nôtre. Je trouve que c'est intéressant parce que nous sommes aussi actuellement dans une sorte de période de changement, et de période de changement et de période de grandes transformations, ne serait-ce que dans la manière de concevoir, par exemple, le mariage, ne serait-ce que dans la manière de concevoir ce qu'on appelle la définition d'une personne humaine, etc., avec des tentations vers le transhumanisme, avec bon. Alors, c'est toujours bien intéressant d'être attentif à ça, mais d'être attentif aussi que nous pouvons, par notre manière d'agir, nous pouvons être une bonne nouvelle et prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est ce que dit Jésus. Prenez le meilleur et rejetez le reste. Et donc, il y a parfois aussi des tentations de raidissement. Alors, c'est pas facile. Est-ce qu'il faut céder aux sirènes du monde? Je pense, par exemple, à l'Église anglicane. L'Église anglicane, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, il y a 4 évêques anglicans qui ont demandé leur rattachement à l'Église catholique, parce qu'ils trouvaient que c'était tout et n'importe quoi. Alors, c'est pas ça dont je vous parle. Je vous dis, tiens, le Concile de Jérusalem, il a donné des normes, il a donné des références, il a dit, voilà, on peut admettre sous certaines conditions. Et je trouve que cette manière de fonctionner, d'être accueillant à la grâce de Dieu, accueillant à ce qui se passe, tout en discernant, et c'est une position inconfortable. C'est une position inconfortable, parce qu'on préférait parfois le siège de Béziers ou la révocation de l'édit de Nantes. On préférait quelque chose de plus raide, peut-être plus clair, plus raide, etc., alors que ça s'est retourné contre nous. Donc, je trouve que à travers le principe, le premier concile de Jérusalem, donc avec les apôtres, etc., le fait de dire, voilà, on peut trouver une voie médiane, une troisième voie entre l'acceptation de tout et n'importe quoi et entre le raidissement et l'Esprit Saint. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui permet de trouver cette troisième voie. Parce qu'il fallait vraiment. Parce que l'Église aurait pu très bien arrêter là. Si, par exemple, on avait dit non, il faut être, selon la loi de Moïse, circoncis, et tout ce qui est de la loi de Moïse s'applique aux païens, aujourd'hui, nous ne serions pas là. S'il y avait une forme de raidissement, vous voyez. Ça n'a pas été le cas. On a dit, ok, il y a un certain nombre de choses. Il faut manger kasher, il faut manger, parce qu'il y avait des juifs, donc il fallait contenter, et puis ensuite, bon, mais arrêter les unions illégitimes comme il pouvait y avoir dans le paganisme, etc. Bon, mais en dehors de ça, on ne vous demande rien de plus. Ce qui fait que, voilà, je trouve que c'est comme manière de fonctionner, c'est inconfortable, mais c'est profondément évangélique. Et c'est une attitude de confiance. Je trouve que la manière dont Jésus se décrit lui-même, on l'a lu dans les évangiles là, depuis Pâques avec l'évangile du bon pasteur, et dans ce discours du bon pasteur, il dit « Moi, je suis la porte ». Qu'est-ce que c'est la porte des brebis? Vous vous souvenez de ce passage? « Moi, je suis la porte des brebis ». Une porte, qu'est-ce que c'est si ce n'est la séparation entre ce qui est connu et inconnu, entre ce qui est visible et invisible, entre ce qui est, je vais dire, sous contrôle et la confiance. Donc, dès que vous voyez une porte, pensez à Jésus, vous dites, tiens, Jésus se définit comme une porte. C'est-à-dire qu'il se définit comme un passage. Et vous savez que Pâques veut dire passage. Et donc, je trouve intéressant de dire qu'il se définit la porte des brebis. Moi, je suis la porte des brebis. Je ne suis pas un mur. Je ne suis pas une citadelle des brebis. Je ne suis pas le chef d'une église assiégée. Je suis la porte des brebis. Celui qui passe par moi ne mourra jamais. Alors, le fait d'avoir un Dieu qui, comme le Christ, se définit comme porte, ça nous donne aussi une manière d'être comme chrétien dans notre relation au monde, dans notre rapport au monde, qui sera toujours un rapport tendu, parce que précisément, tant que Dieu ne sera pas tout en tous, eh bien, nous serons dans la tension, et j'allais dire que il n'y a qu'au cimetière où nous serons complètement détendus, là, ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, il est peu probable que nous arrivions à cette paix parfaite dont nous parle Jésus dans l'Évangile. Hein. C'est la paix que je vous donne, non pas à la manière du monde. Cette paix-là, elle accepte une tension, elle accepte de sortir de sa zone de confort et de voir comment l'Évangile peut éclairer. Je pense à ce que nous demande de vivre le Saint-Père, le pape François, aujourd'hui, avec la synodalité. C'est assez étonnant de dire comment gouverner l'Église. C'est quand même très important. Et bon, et puis, du coup, c'est un peu l'ouverture d'une boîte de Pandore. On demande l'avis à tout le monde, chose qu'on n'avait pas vraiment fait jusqu'à présent. Alors, vous savez que les jésuites sont le poil à gratter de l'Église, parce qu'ils ont toujours des manières différentes de voir. Alors, quand c'est le pape qui est un jésuite, c'est toute l'Église qui se démange d'une certaine manière. Mais on peut dire ça, de dire qu'au fond, il nous invite à sortir de notre zone de confort avec cette synodalité, de tous ensemble, de comment est-ce qu'on peut gouverner, comment on sent les appels du Saint-Esprit, l'Esprit Saint et nous-mêmes, nous pouvons le dire, et comment est-ce qu'on est conduit vers autre chose. Je trouve ça vraiment courageux, inconfortable, voire pénible, mais qu'est-ce qui va en sortir? Personne ne le sait, comme personne ne savait de ce qui allait sortir de l'accueil des barbares, comme personne ne savait de ce qui allait sortir de l'accueil de la philosophie grecque dans la théologie, etc. Donc, je trouve que cette première lecture, je vous invite à la relire, parce que sous cet angle-là, et l'Évangile aussi, sur cette paix que le Seigneur nous donne, mais qui n'est pas une paix à la manière du monde, ce n'est pas une paix à la manière du siège de Béziers, ni de les révocations de l'édit de Nantes, vous voyez, ce n'est pas une paix est rigide, vous voyez, mais c'est une paix à la manière du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est ? Relation, essentiellement relation. Une paix qui est fondée sur la qualité de la relation, sur maintenir la communion, maintenir la relation. Et on sait bien que ce soit dans nos familles ou que ce soit dans l'Église, c'est compliqué. Hein, et je pense à quelque chose, là, le siège de Béziers, etc., la croisade des Abigeois. Moi, j'interprète comme ça, mais vous savez que dans le sud-ouest, c'est pratiquement une des terres les moins croyantes en France. Hein, ça a donné, beaucoup la terre des anticléricaux, radical-socialistes début du XXe siècle, etc., bouffeurs de courets. Moi, je me dis, tiens, est-ce que ça a à voir avec ce raidissement qu'ont subi les habitants qui se sont, de génération en génération, défiés de l'Église ? Peut-être, je n'ai pas la réponse, mais le transgénérationnel, ce n'est pas que dans les familles, il y a aussi des territoires qui, au niveau de la foi, ont eu une mauvaise expérience de la foi chrétienne et se sont éloignés. Et de génération, hein, on parle de 7 siècles, d'une distance de 7 siècles avec le siège de Béziers. Donc je trouve que c'est intéressant d'être attentif à ça, parce que les conséquences, on ne les connaît pas, tant positives comme négatives. Et quand Jésus nous invite à accueillir sa paix, je vous la laisse, non pas à la manière du monde, je vous la donne, ne soyez pas ni bouleversés ni effrayés, je m'en vais, je reviens, voilà, c'est, rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'Esprit Saint vous rappellera tout. Et c'est dans cette perspective-là qu'il nous laisse, ensuite, là je dis c'est l'ascension, et bien voilà, qui part vers le Père, ensuite en nous donnant son Saint-Esprit, qui nous permet de trouver une solution où la communion est au rendez-vous, même si c'est à tâtons, même si c'est compliqué, même si c'est imparfait. Demandons au Seigneur cette grâce particulière d'avoir confiance dans la puissance de l'Évangile, dans la puissance d'assimilation, dans la puissance d'une certaine manière de rencontre de l'Évangile avec ce qui n'est pas l'Évangile. Et demandons au Seigneur cette grâce d'ouverture, tout en ayant ce discernement que donne le Saint-Esprit. Amen.